question. Pourquoi vous dites que la substance est première détermination formelle de ce qui est? Je le dis en saisissant le propre d'un principe de l'être. Qui dit principe dit premier. Premier selon la causalité formelle de l'être. Bon, alors, pourquoi une détermination et pas une cause ou un principe? C'est pour préciser ce que c'est que le principe. Je précise le principe par son effet propre. Pour nous, je ne peux saisir un principe que par son effet propre. Vous avez la connaissance de la détermination directe. Si vous comprenez tout simplement quand vous dites ceci est. Où est la détermination dans ceci est? Alors, vous ne pouvez saisir le principe qu'à partir de l'effet. Vous ne pouvez pas le saisir autrement. Vous ne touchez pas le principe. Vous ne touchez pas la cause. Or, votre connaissance, elle est toujours à travers le sensible, mais au-delà du sensible. La détermination, vous la touchez. Et vous ne touchez pas la cause. Vous ne touchez pas le principe. Vous le saisissez par l'intelligence. Avec la détermination, c'est tous vos sens. Vos sens. Quand vous faites la différence entre le sel et le sucre, c'est la détermination. C'est pas le principe. Alors vous faites la distinction du sel et du sucre tous les jours en mangeant. Parce que quand on vous sert une soupe sucrée, alors que ça devait être salé, ça fait un très drôle d'effet. Il faut de temps en temps faire cette expérience. Parce que ça nous fait comprendre ce que c'est que la détermination. Le sel. Définissez le sel. Je me souviens de Connac, quand j'étais professeur de philosophie au Canada. Alors il avait 7 ans, une année de repos, il voyageait, et on lui demandait qu'est-ce que vous faites pendant cette année ici. Ah, je me demande ce que c'est que l'eau. Et toute son année, il cherchait à préciser ce que c'est que l'eau. Mais comment vous précisez ce que c'est que l'eau? Et par la sensibilité. L'eau, ça lave. Qu'est-ce que c'est que laver? Allez jusqu'au bout, hein, dans votre philosophie, jusqu'au sens. Tant que votre philosophie n'est pas descendue jusqu'au vos sens, vous idéalisez. Vous voyez, ça, confusion entre le principe et la détermination, c'est idéaliser. Parce que c'est du Platon. Pour Platon, la détermination, c'est la cause. Oui. La détermination en soi, c'est la cause. C'est la cause formelle. Or, pour nous, la détermination n'est pas cause. Elle est l'effet. Elle est l'effet de la cause formelle. La détermination, vous la touchez. Ça, c'est du bois. C'est du bois pelissé. Il est assez poli, ce bois. C'est très joli de dire qu'il est assez poli. Parce que vous pouvez le toucher sans avoir la peine. Tandis que quand vous touchez le bois brut, c'est pas toujours agréable. Oui, là, il faut jamais quitter les sensations. Le jugement d'existence, ceci est. ceci est toujours présent dans toutes vos spéculations philosophiques. C'est dépassé, c'est sûr, mais c'est présent. Dans un effet, c'est très important, parce qu'autrement, vous idéalisez les principes. Et on tombe dans Platon. Platon, il idéalise les principes. Il confond cause formelle et détermination. Alors, il faut arriver à distinguer cause formelle, cause selon la forme. C'est plus juste de dire le kata grec. La cause selon les déterminations. Donc, alors, je vais jusqu'au bout. Pourquoi une détermination et pas une cause ou un principe? Parce que c'est l'effet, tout simplement. La détermination, c'est l'effet de la cause formelle. La cause formelle se manifeste à moi par la détermination. Mais elle n'est pas cause formelle. Est-ce que la détermination ne fait pas allusion à l'acte? Ah, vous voyez? Alors, puisque vous n'arrivez pas à distinguer la détermination comme un effet, vous dites que la détermination ne fait-elle pas allusion? Alors, allusion, qu'est-ce que ça veut dire? Allusion à l'acte, plus qu'à la cause. Mais non, la détermination, c'est pas l'acte. La détermination, c'est l'effet de la cause formelle. Il faut arriver à distinguer effet et cause, effet et principe. Le principe et la cause, vous ne la touchez pas. Mais vous touchez les déterminations. Cette table est déterminée dans ce bois. Et la détermination de cette table serait différente si cette table était du marbre. Je distinguerai tout de suite la détermination du bois de celle du marbre. Parce que le marbre est un peu plus froid. Et dans les différents marbres, je distinguerai les diverses déterminations. Il y a du plus et du moins. Parce que vous êtes dans les qualités. Tandis que le principe, il n'y a pas plus et moins. Il est indivisible. Le principe et la cause sont indivisibles par les déterminations, il y a du plus et du moins, parce que c'est le toucher. Et je sais bien que c'est pas commode, hein, mais au fond c'est très important, parce que si on confond la détermination et le principe, vous restez encore dans Platon. Et c'est difficile de dépasser Platon. Hein. Platon parle beaucoup plus à notre imagination. Or, dans l'imagination, détermination et principe, c'est la même chose. L'imagination ne voit pas l'effet et la cause. Et c'est la première chose que vous déterminez par l'intelligence. C'est l'intelligence qui peut voir la différence entre le principe et la cause. Tandis que l'imagination, non. Vous imaginez un principe. Pas imaginer un principe, on doit le saisir. On doit saisir un principe, on doit saisir une cause. Et c'est l'intelligence seule. Vous n'avez jamais touché un principe. Vous n'avez jamais touché une cause. C'est l'intelligence qui, à partir des effets qu'elle saisit, saisit la cause et le principe. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que je vous le dis. Vous avez raison de le mettre. Vous avez raison de l'écrire. Parce qu'en l'écrivant, en l'écrivant, on voit où il y a l'erreur. Distinction entre l'effet et la cause. L'effet et le principe. Vous touchez les effets. Tout ce que vous touchez, ce sont des effets. Tout ce que vous voyez, ce sont des effets. Mais, alors, arriver à distinguer de plus en plus la sensation, ce qui est sensible, de ce que l'intelligence saisit, le passage du sensible à l'intelligence. Et ça, c'est l'induction. Et c'est l'induction qui est sûrement ce qu'il y a de plus important à saisir en philosophie. Oui. Parce que toutes les philosophies contemporaines ne veulent pas d'induction. Ils veulent saisir toujours tout dans la sensation. Au fond, il y a un petit peu le désir de Platon, qui est un désir angélique. La manière dont les anges doivent regarder Platon. Ils doivent dire, mon cher Platon, tu n'es qu'un homme, tu n'es pas un ange. Il y a de l'angélisme dans Platon. C'est de l'angélisme. C'est de tout saisir dans la cause et le principe, immédiatement la chose en soi. C'est très curieux. Oui. Et ça fait comprendre la grandeur de l'art. Il y a quelque chose d'angélique dans l'art. Mais si on est conscient, on sait bien que l'art est réservé à l'homme pour que par l'art, il soit angélique. D'une certaine manière. Mais s'il se prend trop au sérieux, il fait la bête. Qui fait l'ange fait la bête. Hein, c'est le vieux dicton, ça. Et ça a beaucoup de signification, ça. Bon. Alors, je continue. Toujours pour mieux saisir le principe selon la forme. Qui est la substance. Donc, la substance comme telle n'est pas la détermination, parce que la détermination, je la touche, je la vois. Mais elle est le principe, la cause de toute détermination. Où se trouvent les premières déterminations, les qualités? Toute la philosophie des qualités, c'est la philosophie des déterminations. Et les qualités sont multiples et très diverses. Oui. Donc, en regardant les qualités, vous allez comprendre beaucoup mieux ce que c'est que la détermination, l'effet de la cause formelle. C'est pour ça que la substance se manifeste en premier lieu à travers les qualités. La substance spirituelle, qui est l'âme, notre substance spirituelle, se manifeste en premier lieu à travers les habitus intellectuels. Parce que la puissance, on la verra ensuite, elle est déjà une détermination, mais elle n'est pas la détermination ultime. Votre intelligence a besoin de se déterminer pour être plus parfaite comme intelligence. Mon intelligence est une capacité merveilleuse de connaître tout ce qui est. Et l'intelligence ne sera satisfaite que lorsqu'elle connaît tout ce qui est, c'est-à-dire le principe suprême dernier qui est Dieu. Mais je ne le peux pas saisir tout de suite. Mais c'est quand même à travers toutes les qualités qu'on va aller jusqu'au bout. Bon, il faut saisir que mon intelligence, au point de départ, ce que dit Aristote est très juste. Au point de départ, mon intelligence est tabula rasa. J'aime beaucoup ce mot, hein. Votre intelligence au point de départ. En première année de philosophie, votre intelligence est tabula rasa. Donc elle est bien rasée. Il n'y a pas un poil. Ça glisse. Tabula rasa. Elle est très douce. C'est vrai, une intelligence tabula rasa est très douce. Quand on dit de quelqu'un ce qu'il est doux, ben oui, il est indéterminé. On peut le manœuvrer comme on veut. À droite, à gauche, c'est pas très bien. Et c'est ce que dit admirablement Sainte Catherine, la barque de pierre va à peu près droit, un coup de gaffe à droite, un coup de gaffe à gauche. C'est exactement ce point de vue-là, tabula rasa. L'Église n'est pas tabula rasa. L'Église est déterminée par le Saint-Esprit. Mais elle a un peu soin de beaucoup de serviteurs tabula rasa. Parce que des serviteurs qui ont déjà leur détermination avant le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est très poli et il le laisse passer. Ah, vous ne voulez pas de moi ? Allez-y. Et puis au bout d'un certain temps, il y a la catastrophe. Il y a le petit gosse qui fait du ski. Vous avez déjà vu des gosses faire du ski ? Ça, c'est très amusant, parce que le gosse qui fait du ski, il peut dégringoler et tourner sur lui-même. C'est extraordinaire de voir ça. La grande personne ne peut pas, c'est impossible. Mais le gosse peut faire ça. Bien, c'est lorsque on veut rouler soi seul. Alors, le Saint-Esprit nous laisse rouler, mais ça descend de plus en plus vite. Alors, il y a un moment... C'est curieux, ça. Notre intelligence, au point de départ, est tabula rasa. Et l'intelligence se détermine progressivement. Et elle se détermine par des habitus. Habitus, habere, avoir. C'est quand même... C'est curieux comment on peut traduire habitus. C'est la possession interne que l'intelligence peut posséder dans les différents domaines où elle possède des déterminations propres. Une intelligence qui se développe bien est une intelligence qui a des habitus. Alors, on n'a pas des habitus pour n'importe quoi. On les a pour des déterminations fondamentales. Quand avez-vous l'habitus métaphysique ? Quand vous saisissez les principes. Pas les déterminations, mais les principes. Tant que vous restez dans les déterminations, vous décrivez. Tandis que la substance, principe, cause, ça fait une détermination fondamentale. Et l'intelligence, au point de vue métaphysique, se détermine par cet habitus de sagesse, qui est l'habitus qui touche l'ultime réalité, Dieu, l'être premier. Quand l'intelligence découvre l'être premier, l'intelligence acquiert une noblesse profonde qui lui est propre. L'intelligence, elle est faite pour que... connaître l'être et l'être premier. Et donc l'intelligence se retrouve elle-même, pleinement elle-même, que par l'impitus métaphysique. Il y a une qualité interne de mon intelligence qui est cet habitus métaphysique. Ça met du temps et ça va très vite. On l'acquiert très vite. Mais par la soif, d'une façon très, très, très peu au début, très peu vraiment elle-même, cet habitus rend mon intelligence parfaitement elle-même. Mon intelligence, alors, à ce moment-là, se distingue parfaitement de l'imagination, il se distingue parfaitement de tout ce qui est connaissance univoque, connaissance descriptive, connaissance artistique. Elle se distingue complètement et elle se distingue parfaitement de l'intelligence mathématique. Il y a l'habitus de sagesse. C'est l'habitus métaphysique. C'est la détermination suprême de l'intelligence. Oui, c'est l'intelligence qui contemple la réalité ultime qui est Dieu. Autant qu'elle le peut. Autant qu'elle le peut. Parce que la contemplation métaphysique de Dieu, elle est très pauvre, mais elle existe, mais elle est très pauvre. Vous voyez, c'est une noblesse de l'intelligence, mais une noblesse de pauvre. On rencontre de temps en temps la noblesse d'un pauvre. Un vrai pauvre est très noble et il sait ce que c'est que la pauvreté, la dépendance de l'intelligence à l'égard de l'être premier. Ça, c'est beau. La dépendance de l'intelligence à l'égard de l'être premier, c'est-à-dire une intelligence qui a soif d'adorer, donc qui a soif d'être dépassé par l'amour. Puisque l'intelligence qui saisit l'existence de Dieu comprend immédiatement que je ne peux m'approcher de Dieu qu'en l'aimant et en l'adorant. C'est par l'amour que je peux être tout proche. Donc vous voyez, elle reconnaît sa pauvreté. Elle reconnaît que Dieu, je ne peux pas le définir. On ne définit pas Dieu. On n'a pas de concept de Dieu. On est dans un état de pauvreté. C'est l'habitus le plus noble qui est le plus pauvre. Parce qu'il est un habitus d'attente. Tout entier tourné vers l'existence de Dieu, mais dans l'impossibilité de posséder. Je ne peux pas contempler Dieu toujours. Je le contemple par moments. Et donc, mon intelligence ne vit pleinement que par moments. Ne peut pas vivre tout le temps à son maximum. L'habitus métaphysique qui met mon intelligence tournée vers Dieu est en même temps ce qui il fait ce qui me fait comprendre le mieux la pauvreté de mon intelligence. Elle est toujours en attente. Elle désire toujours aller plus loin. Parce que ce qu'elle saisit de Dieu, elle comprend en même temps que c'est très peu de choses. Et elle désire le saisir toujours plus. Donc l'habitude suprême, c'est l'habitude de sagesse. Et c'est celui-là, l'habitude de sagesse métaphysique, que nous devons chercher en premier lieu, puisque c'est le bien par excellence de mon intelligence. Mon intelligence n'est parfaitement elle-même comme intelligence, c'est-à-dire fille de Dieu, elle n'est parfaitement elle-même que dans cette contemplation très pauvre, mais cette contemplation de l'être premier de Dieu. Il y a d'autres habitudes de l'intelligence. Immédiatement à côté de l'habitus métaphysique, il faut mettre l'habitus mathématique. Des mathématiques. Parce que, d'une certaine manière, c'est le rival de l'habitus métaphysique. Parce que l'habitus mathématique saisit l'intelligence humaine, pas l'intelligence en tant qu'intelligence, l'intelligence ut intellectus en tant qu'intelligence, elle est divine. Aristote le dit ça, hein, même lui. Et c'est vrai. L'intelligence en tant qu'intelligence est divine, puisqu'elle est faite pour Dieu. Et elle n'est satisfaite que lorsqu'elle atteint Dieu. Tandis que l'intelligence mathématique, c'est l'union de l'intelligence avec l'imaginaire. L'imaginaire dans ce qu'il a de plus noble. L'imaginaire humain, l'imaginaire d'en haut, qui saisit l'être mathématique, la relation la plus, pas la plus pure, mais la relation la plus humaine, celle que l'intelligence humaine est capable de réaliser. C'est une intelligence, au contraire, de domination. C'est pour ça qu'elle tente tellement. Si l'habitus métaphysique est un habitus de pauvreté, parce que je crois qu'il y a de vraies pauvretés intellectuelles, que quand mon intelligence a découvert l'existence de Dieu et qu'elle a compris que cette existence, ce Dieu qu'elle a découvert, me dépasse complètement. Je suis fait pour contempler Dieu, et cette contemplation de Dieu me dépasse complètement. Je ne peux pas, quand je veux, me mettre dans la contemplation de Dieu. Il faut des dispositions. Quand on a un mal de tête effrayant, difficile de faire de la métaphysique et d'aller au sommet. Il faut donc une disposition, pas dormir trop. Quand j'ai besoin de dormir, c'est très difficile de faire de la métaphysique. À partir de telle heure du soir, c'est très difficile de faire de la métaphysique. Sauf si on est capable de passer toute la nuit à faire de la métaphysique. Mais c'est très exceptionnel, ça. Et il ne faut pas le répéter trop souvent. Ça peut se faire, quand on est jeune. Ça peut se faire. À 25 ans, on peut passer la nuit en contemplation métaphysique. Parce que Plotin, on l'a pris en contemplation pendant plusieurs jours. Contemplation philosophique. C'est pas une chose impossible. Mais c'est dans la pauvreté. Tandis que les mathématiques, c'est dans l'avoir. On possède les mathématiques. On possède l'habitus mathématique. Et c'est une possession très grande, puisque elle permet toutes les autres possessions. Tout l'aspect de domination, même prudence politique, il y a quelque chose qui dépend des mathématiques. Le domaine des mathématiques est de plus en plus encombrant pour celui qui a de la peine à faire des mathématiques. On sait très bien. On a tous rencontré des gens qui aimaient beaucoup la médecine, comme étudiant, et qui s'arrêtait parce qu'il y avait trop de mathématiques. Et qui n'était pas fait pour ça. Et dans toutes les sciences, au fond, il y a ce domaine mathématique qui, de plus en plus, s'empare de toutes les sciences. C'est un habitus qui prend possession de toutes les sciences. C'est vraiment un habitus très extraordinaire, l'habitus mathématique. Qui lie profondément l'imagination à l'intelligence. Et liant l'imagination à l'intelligence permet par le fait même de découvrir parfaitement ce qu'est la raison humaine. Le mathématicien, c'est celui qui saisit parfaitement ce qu'est la raison humaine et qui saisit parfaitement toutes les relations l'intelligence peut exercer, tous les possibles. C'est dans le domaine de la possibilité, des virtualités, où le domaine mathématique domine. Alors vous voyez, c'est une possession intellectuelle et imaginaire, c'est une possession très grande, qui ne s'achève pas dans une contemplation. Les mathématiques s'achèvent dans une possibilité de dominer. C'est en quelque sorte presque comme l'inverse de l'habitus métaphysique. L'habitus métaphysique vous met dans une pauvreté radicale. L'habitus mathématique vous met dans une possession, un avoir parfait. Et c'est pour ça qu'il est tellement humain et qu'il séduit si fort. Alors, dans ce domaine mathématique, et grâce à ce domaine mathématique, vous pouvez avoir des sciences subalternes. Et tout le développement des sciences subalternes peuvent se faire à partir des mathématiques et donner comme des habitus relatifs à l'habitus mathématique. Des dispositions au sens rigoureux. Parce que qui dit habitus dit un avoir indépendant de tout le reste. Alors cet avoir indépendant de tout le reste, il est ou métaphysique ou mathématique. Et toutes les autres habitus sont en dépendance de ça. Vous avez un habitus logique. Mais l'habitus logique, il est dépendant ou des mathématiques ou de la métaphysique, de la philosophie. Vous voyez ? Parce que la logique comme telle, c'est un art qui n'est pas premier, qui n'est pas sagesse. Donc, l'habitus de la logique est toujours second. C'est au fond une disposition, plus qu'un habitus. La disposition, c'est justement ce qui vient déterminer l'intelligence, mais qui ne peut pas la déterminer pleinement. C'est une orientation. C'est beaucoup plus une orientation. Un penchant vers une pente, mais plutôt une détermination nette. L'habitus donne à mon intelligence sa détermination la plus noble dans la sagesse, sa détermination la plus humaine dans les mathématiques, avec le point de vue imaginaire, tout le monde virtuel qui est dominé par les mathématiques. Il y a les habitus d'art, toujours l'intelligence. L'habitus d'art. L'art possède une possibilité de perfectionner mon intelligence d'une façon humaine. Ce sont des habitus très humains, les habitus d'art. C'est pour ça que le peintre, l'architecte, ça nous donne toujours des intelligences qui sont très concrètes et très liées au sensible propre. Et les habitus d'art sont selon nos cinq sens. Une intelligence est capable de se perfectionner dans ce sens-là. Alors, il y a encore en plus l'intelligence pratique, où l'habitus devient une vertu. La vertu, c'est un habitus dans l'ordre pratique, dans l'ordre de la finalité. Vous voyez ? C'est ça qui, je crois, très important de voir, c'est que les habitus de l'intelligence, sauf celui de sagesse, perfectionnent l'intelligence, mais non pas l'homme. Et l'habitus mathématique perfectionne l'intelligence humaine, mais ne perfectionne pas l'homme comme tel. Parce que les mathématiques ne me montrent pas ma finalité humaine. Quelle est ma finalité humaine? Ça m'échappe. Et c'est vrai. Donc l'habitus mathématique n'est pas du tout une vertu. C'est un habitus de l'intelligence. Comme intelligence. L'habitus d'art ne développe pas la finalité humaine, ne développe pas l'homme dans le sens de sa finalité humaine, mais dans le sens de son art. La possibilité de réaliser quelque chose, la possibilité d'avoir son monde particulier, le monde de l'artiste, le monde du musicien, le monde du peintre, le monde de l'architecte. Et l'habitus dans la volonté, il est toujours finalisé par ce qu'il y a de fin humaine, la contemplation. Vous avez l'habitus de prudence, la vertu de prudence, qui permet d'ordonner toute ma vie vers la contemplation. Et c'est ça. ça la grandeur de l'habitus, de prudence. C'est de permettre à mes activités multiples de toutes les orienter vers la finalité. C'est donc ce qui oriente toutes mes activités vers ma véritable finalité, la contemplation de Dieu, ou l'amitié, les deux finalités, la contemplation et la finalité ultime, et l'amitié qui est une finalité prochaine, la plus proche, une finalité qui n'est pas absolue, mais une finalité intermédiaire et qui est très humaine. L'habitus d'amitié, la vertu d'amitié, c'est quelque chose de très particulier qui qualifie l'ami. Toutes mes activités humaines sont orientées à cette amitié ou à la contemplation de Dieu. Donc tout le domaine des déterminations, tout ce domaine des déterminations manifeste, ou d'une façon spirituelle, ou d'une manière sensible, la détermination radicale de la substance. Ma substance, elle se révèle, elle se manifeste à travers tous mes habitus, à travers toutes mes vertus, à travers tous les arts. Et donc, pour comprendre ce qu'est la substance, voyez, la comprendre d'une façon pleinement concrète, réelle, je la saisis à travers les habitus, à travers les vertus, qui sont des habitus, mais des habitus ordonnés à la finalité, à travers l'art. Il est sûr qu'un grand artiste, peintre ou musicien, me montre combien il est personnel, combien chez lui la substance a ramené tout vers sa finalité pour réaliser son œuvre. Un artiste peintre, dans sa peinture, dans son travail d'artiste, me manifeste ce qu'est sa substance. Son âme se dévoile à travers son œuvre. Elle se dévoile, donc ce n'est pas son âme, et c'est le dévoilement de son âme, c'est la manifestation de son âme. Un philosophe qui vit de l'habitus métaphysique et de cette contemplation philosophique me manifeste la grandeur de son âme, son esprit. Il se manifeste à travers son intelligence et à travers ses vertus, c'est sa volonté, à travers son amitié, c'est sa finalité. Je crois que ça, c'est très important pour nous de comprendre que cette découverte de la substance n'est pas du tout abstraite. Quand on dit « Oh, les métaphysiques, c'est très abstrait », on a envie de donner une claque en disant « Non, c'est pas abstrait du tout. Il n'y a rien de plus concret que ça. » Quand on dit que la métaphysique est abstraite, c'est parce qu'on n'a pas compris ceci est. C'est le jugement d'existence. Il est présent. Et comme la substance est un principe selon la forme, c'est très concret. La substance, elle se manifeste à travers tout ça. Non. Première manifestation de la substance. Deuxième manifestation de la substance, à travers les qualités sensibles. Les qualités sensibles qui sont la figura, la physionomie, et les qualités sensibles, la qualité de bâtir ou d'agir, point de vue passionnel, qui sont des qualités dans le corps, le point de vue du concupiscible et de l'irascible. L'irascible manifeste d'une façon étonnante la capacité de se mettre en colère. C'est beau de voir quelqu'un en colère. C'est grand. Oui, c'est comme un orage. Un orage, c'est quelque chose d'assez étonnant. On attend le coup de canon. Hein. Il y a quelqu'un qui est en colère, c'est ça. On a tous dans son esprit quelques colères paternelles violentes ou quelques colères d'un professeur, de quelqu'un qu'on a connu. Et c'est grand les colères. Quelqu'un qui ne se met jamais en colère, il lui manque quelque chose. Et parce que la douceur présuppose, la vraie douceur présuppose une colère dépassée par la douceur. Mais la douceur mièvre, qui n'est pas une qualité, qui n'est pas une vertu, montre la faiblesse. Et la faiblesse ne manifeste pas la substance, elle manifeste votre corps. C'est à cause de votre corps que vous êtes faible. C'est à cause de votre corps que vous êtes incapable de toutes les possibilités qu'il peut y avoir. Tout le monde pourrait voir ça. Tout le monde pourrait dire ça. Alors, je me tais, je laisse. Tandis que l'homme qui connaît où se trouve le bien, et quand il voit que le bien n'a pas sa place, n'est pas dominant, et que ce sont des égoïsmes qui dominent, l'homme se met en colère. Il se met en colère de la vraie colère, qui est justement une infraction à la justice. Quand la justice n'est pas respectée, l'homme se met en colère. L'homme droit se met en colère. Et alors, la colère comme la concupiscence, manifeste la substance à travers mon corps. Donc c'est visible, la colère est visible, parce que la colère tout intérieure, elle ne va pas jusqu'au bout. La colère se manifeste à travers le corps. Et la physionomie, c'est aussi la substance à travers le corps. La physionomie de quelqu'un, la figura, c'est la substance forme de la forme du corps qui transforme le corps en lui donnant telle et telle physionomie. Notre physionomie varie avec l'épanouissement même, et la manifestation de l'âme. Mon âme se traduit à travers ma physionomie. Vous voyez, comme la forme naturelle dans un paysage de montagne, dans un paysage de neige, dans un paysage du ciel, le lever du soleil, le coucher du soleil. C'est la nature qui se manifeste à travers la nature forme qui se manifeste à travers le corps. Et ça, c'est une manifestation glorieuse, quand elle est très grande, de la forme, de la nature forme. Et dans l'homme, sa physionomie, sa figure, c'est la physionomie la plus parfaite du monde. La figura de l'homme. Le peintre, quand il fait son portrait, manifeste ce qu'il y a de plus grand pour lui dans le monde physique. Ce qu'il y a de plus grand dans le monde physique, c'est la physionomie humaine. Et dans la physionomie humaine, le regard. Et là, c'est, je crois, très important de comprendre comment le corps, comment la physionomie physique me donne une image de ma substance, de mon âme. Mon âme ne se traduit pas totalement dans ma physionomie. Je ne peux pas dire nécessairement que la sainteté se reflète dans la physionomie, pas totalement. Parce qu'il y a l'atavisme. Et l'atavisme n'est pas totalement dominé par la forme. Mais il y a une manifestation, il y a quelque chose de vrai qui se manifeste. Mais on ne peut pas dire qu'on a la physionomie de son âme. Ce n'est pas toujours vrai, à cause de l'atavisme. L'âme se manifeste à travers notre corps, à travers notre physionomie, à travers notre regard. Et donc, il y a là quelque chose de particulièrement important pour nous.